Lettre 11 de Madame de Sévigné à Monsieur de Pomponne. Vendredi 19 décembre 1664. Voici un jour qui nous donne de grandes espérances. Mais il faut reprendre le plus loin. Je vous ai mandé comme Monsieur Pusseur opina mercredi à la mort. Jeudi, Noguès, Gisaucourt, Ferriol, Hérault, à la mort encore. Roquesante finit la matinée. Et, après avoir parlé une heure admirablement bien, il reprit la vie de M. d'Ormesson. Ce matin, nous avons été au-dessus du vent, car deux ou trois incertains ont été fixés. Et tout d'un article, nous avons eu la toison. Marnot, Verdier, Labaume et Catina, de l'avis de M. d'Ormesson. C'était à penser à parler. Mais, jugeant que ceux qui restent sont quasi tous à l'avis, il n'a pas voulu parler, quoiqu'il ne fût 11 heures. On croit que c'est pour consulter ce qu'on veut qu'ils disent et qu'il n'a pas voulu se décrier et aller à la mort sans nécessité. Voilà où nous en sommes, qui est un état si avantageux que la joie n'est pas entière. Car il faut que vous sachiez que M. Colbert est tellement enragé qu'on attend quelque chose d'atroce et d'injuste qui nous remettra au désespoir. Sans cela, mon pauvre monsieur, nous aurions la joie de voir notre ami, quoique bien malheureux, au moins avec la vie sauve, qui est une grande affaire. Nous verrons demain ce qui arrivera. Nous en avons 7, ils en ont 6. Voici ceux qui restent. Le Ferron, Moussy, Briac, Bernard, Renard, Voisin, Pontchartrain et le Chancelier. Il n'y en a plus qu'il ne nous en faut de bon à ce reste-là. Samedi. Louez Dieu, monsieur, et le remerciez. Notre pauvre ami est sauvé. Il a passé de 13 à l'avis de M. d'Ormesson et 9 à celui de Sainte-Hélène. Je suis si aise que je suis hors de moi. Dimanche au soir, je mourrais de peur qu'un autre que moi vous eût donné le plaisir d'apprendre la bonne nouvelle. Mon courrier n'a pas fait une grande diligence. Il avait dit en partant qu'il n'irait coucher qu'à Livry. Enfin, il est arrivé le premier à ce qu'il m'a dit. Mon Dieu, que cette nouvelle vous a été sensible et douce, et que les moments qui délivrent tout d'un coup le cœur et l'esprit d'une si terrible peine font sentir un inconcevable plaisir. De longtemps je ne serai remise de la joie que j'eus hier. Tout de bon, elle est trop complète, j'avais peine à la contenir. Le pauvre homme a pris cette nouvelle par l'air peu de moments après, et je ne doute pas qu'il ne l'ait sentie dans toute son étendue. Ce matin, le roi a envoyé son chevalier du guet à Mesdames Fouquet, leur recommander de s'en aller toutes deux à Montluçon en Auvergne, le marquis et la marquise de Charot à Ancenis, et le jeune Fouquet à Joinville en Champagne. La bonne femme a mandé au roi qu'elle avait 72 ans, qu'elle suppliait sa majesté de lui donner son dernier fils pour l'assister sur la fin de sa vie, qui apparemment ne serait pas longue. Pour le prisonnier, il n'a point encore reçu son arrêt. On dit que demain on le fait conduire à Pignerolles, car le roi change l'exil en une prison. On lui refuse sa femme contre toutes les règles. Mais gardez-vous bien de rien rabattre de votre joie pour tout ce procédé. La mienne est augmentée s'il se peut et me fait bien mieux voir la grandeur de notre victoire. Je vous manderai fidèlement la suite de cette histoire. Elle est curieuse. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, à demain le reste. Lundi au soir. Ce matin, à 10 heures, on a amené M. Fouquet à la chapelle de la Bastille. Foucault tenait son arrêt à la main. Il lui a dit « Monsieur, il faut me dire votre nom, afin que je sache à qui je parle. » M. Fouquet a répondu « Vous savez bien qui je suis, et pour mon nom, je ne le dirai pas plus ici que je ne l'ai dit à la chambre. » Et pour suivre le même ordre, je fais mes protestations contre l'arrêt que vous m'allez lire. On a écrit ce qu'il disait, et en même temps, Foucault s'est couvert et a lu l'arrêt. Monsieur Fouquet l'a entendu découvert. Ensuite, on a séparé de lui Péquet et Lavallée, et les cris et les pleurs de ces pauvres gens ont pensé fendre le cœur de ceux qui ne l'ont pas de fer. Il faisait un bruit si étrange que M. d'Artagnan a été obligé de les aller consoler, car il semblait que c'était un arrêt de mort qu'on vint de lire à leur maître. On les a mis tous deux dans une chambre à la Bastille, On ne sait ce qu'on en fera. » Cependant, M. Fouquet est allé dans la chambre de M. d'Artagnan. Pendant qu'il y était, il a vu par la fenêtre passer M. d'Ormesson, qui venait de reprendre quelques papiers qui étaient entre les mains de M. d'Artagnan. M. Fouquet l'a aperçu, il l'a salué avec un visage ouvert et plein de joie et de reconnaissance. Il lui a même crié qu'il était son très humble serviteur. M. d'Ormesson lui a rendu son salut avec une très grande civilité et s'en est venu, le cœur tout serré, me conter ce qu'il avait vu. À 11 heures, il y avait un carrosse prêt où M. Fouquet est entré avec 4 hommes, M. d'Artagnan à cheval avec 50 mousquetaires. Il le conduira jusqu'à Pignerol où il le laissera en prison sous la conduite d'un nommé Saint-Mars qui est fort honnête homme et qui prendra 50 soldats pour le garder. Je ne sais si on lui a redonné un autre valet de chambre. Si vous saviez comme cette cruauté paraît à tout le monde, de lui avoir ôté ces 2 hommes, Péquet et Lavallée, c'est une chose inconcevable. On en tire même des conséquences fâcheuses dont Dieu le préserve comme il a fait jusqu'ici. Il faut mettre sa confiance en lui et le laisser sous sa protection qui lui a été si salutaire. On lui refuse toujours sa femme. On a obtenu que la mère n'irait qu'au parc chez sa fille qui en est abbesse. L'écuyer suivra sa belle-sœur. Il a déclaré qu'il n'avait pas de quoi se nourrir ailleurs. Monsieur et madame de Charros vont toujours à Ancenis. Monsieur Bailly, avocat général, a été chassé pour avoir dit à Gisaucourt, avant le jugement du procès, qu'il devait bien remettre la compagnie du Grand Conseil en honneur et qu'elle serait déshonorée si Chamillard, Pussor et lui allaient le même train. Cela me fâche à cause de vous. Voilà une grande rigueur. Tante me animis, qu'elestibus irae. Mais non, ce n'est point de si haut que cela vient. De telles vengeances rudes et basses ne sauraient partir d'un cœur comme celui de notre maître. On se sert de son nom et on le profane, comme vous voyez. Je vous manderai la suite. Il y aurait bien à causer sur tout cela, mais il est impossible par lettre. Adieu, mon pauvre monsieur. Je ne suis pas si modeste que vous. Et sans me sauver dans la foule, je vous assure que je vous aime et vous estime très fort. J'ai vu aujourd'hui la comète. Sa queue est d'une belle longueur. J'y mets une partie de mes espérances. 1000 compliments à votre chère femme.